Je vais vous parler un peu d'un sujet que j'ai à cœur. Pourquoi ? Parce que je voulais vous parler de l'apostolique. Alors ça y est, ils vont me dire, Bruno va nous faire entrer dans un mouvement apostolique, il veut prêcher un mouvement. Non, je ne vous parlerai pas d'un mouvement. Parce que pour moi, l'apostolique, ce n'est pas un mouvement, c'est une mentalité. Et je voudrais vous, en tout cas, essayer de faire en sorte que ce matin, vous sortiez d'ici en ayant cette mentalité-là. Et vous faire comprendre que c'est dans la mentalité de Dieu, ça fait partie de l'ADN de Dieu, l'apostolique. Dieu est apostolique. Et je ne crois pas que je dis quelque chose de non biblique sur ce sujet. Il persévérait, alors vous connaissez tous ce texte, hein, après la Pentecôte, hein, il est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, c'est ce que vous faites en venant tous les dimanches, et j'espère, en recherchant la communion dans les petits groupes hein, de l'Église, vous recherchez la communion fraternelle, parce que ça fait partie des quatre pieds de la chaise. Enlevez un de ces pieds et vous verrez que vous allez retrouver les quatre fers en l'air, comme dirait ma belle-mère, dans la fraction du pain et dans les prières. Le mot apôtre ici, en grec, c'est apostolos, qui désigne couramment un envoyé chargé d'une mission. Paul était apôtre, il était envoyé et chargé d'une mission. Et en hébreu, c'est chalia. Alors là, j'aime encore mieux la racine hébraïque. Pourquoi ? Parce que ça veut dire envoyé plénipotentiaire. Et plénipotentiaire, ça veut dire que c'est un représentant d'un État qui est chargé des pleins pouvoirs pour accomplir une mission. Et lorsque Jésus dit « Allez, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur », il dit cela à des gens envoyés avec les pleins pouvoirs et une pleine autorité. Ça, c'est une flotte. Je l'ai piqué dans un Astérix. Non, je déconne. C'est une flotte romaine. Et vous savez que le mot « envoyé », « apostolos », à l'époque de Jésus, était couramment envoyé, couramment employé. On l'appelait le général romain « apôtre », Apostolos, lorsqu'il partait avec les pleins pouvoirs de Rome vers une contrée où il devait, écoutez bien, envahir, occuper et transformer. C'est-à-dire qu'il devait introduire le mode de vie romain, il devait introduire les lois romaines, il devait mettre des nouvelles infrastructures. Nous avons d'ailleurs bénéficié dans la Gaule ancienne des infrastructures romaines, hein. Il y avait des voies romaines. Vous allez dans le sud de la France, vous avez des viaducs qui ont été construits par les Romains. Et ils devaient amener une nouvelle culture et une nouvelle société. Ça veut dire que quand Jésus dit à ses disciples, « Voici, je vous envoie au milieu des nations. Faites des nations, de ces nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Il donne à ses disciples de changer. Alors, envahir, c'est un mot guerrier, on s'entend, on ne va pas aller envahir avec le mot guerrier, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il veut aller occuper, et là, vous allez comprendre pourquoi, occuper le territoire et vous allez transformer ce territoire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont peut-être... Je me mets à la place des Romains qui arrivaient de Rome et qui arrivaient dans notre Gaule, à nous, où il n'y avait pas vraiment de chemin, de route, où il n'y avait pas forcément... si mes souvenirs sont bons, mais les forteresses étaient en bois, il n'y avait pas de pierre, vous voyez. On était quand même un peuple primitif à leurs yeux. Et ils sont venus poser ces choses ici. Et Jésus était le plus grand des apôtres. Quand il dit que « comme tu m'as envoyé », il utilise le mot « apostolos », je les ai aussi envoyés dans le monde, apostolos. Ça veut dire que Jésus a été envoyé par le Père Et lui-même, après avoir accompli sa mission, il l'envoie. En réalité, mes frères, mes sœurs, Jésus l'apôtre envoie son église apostolique. Il n'y a pas de honte à s'appeler apostolique parce que nous sommes envoyés par Dieu pour accomplir la mission sur la terre. Est-ce que ça vous réconcilie avec l'apostolique ? C'est pourquoi la doctrine des premiers apôtres était une doctrine d'envoi. Quand un apôtre, quand Paul prend Timothée sous sa coupe, son fils spirituel, il va le former, que fait-il ? Il l'envoie. Et quand nous amenons une personne à Christ, nous envoyons ensuite. Là, je le disais hier, parce que tout ce que je vais vous raconter ce matin, c'est extraordinaire. J'en parlais avec Michel chez ça. Michel, vous savez, c'est au sein du conseil d'administration, c'est le référent auprès de notre fédération d'église, un épi. Donc sur la route, je lui partage un peu, on partage des choses, comme ça vous savez, en voiture, on a une heure de route pour aller jusqu'à Rumingham, plus d'une heure, donc on a le temps de parler. Et je lui partage tout ça. Je vous le mets dans le mille, enfin, pardonnez-moi l'expression, on arrive, c'est mon ami Guy, Georges, qui apporte le message. Il l'apporte exactement dans la même direction. Michel et moi, à un moment donné, on s'est regardé. On m'a dit, mais il était dans la voiture avec nous. C'était fort et puissant. Parce que je crois qu'aujourd'hui, Dieu est en train de dire à son Église, devenez des pères et des mères. Soyez des pères et des mères. Enfantez. Faites des nations des disciples autour de vous. Mais quand vous enfantez, quand vous donnez vie, et moi je parle en connaissance de cause, j'ai eu 3 fils, 2 se sont mariés, mais pour Maryse et moi, ça a été une déchirure de les laisser partir. Et encore, moi je suis un homme, c'est moins compliqué qu'une maman pour des fils. C'est vrai. C'est-à-dire que quand moi j'enfante, on sait, c'est Dieu qui fait naître de nouveau, vous comprenez. Mais quand je deviens le référent de quelqu'un, mon but c'est quoi ? C'est que je dois comprendre que quand j'amène une personne à Christ, je vais l'aider, je vais la faire grandir, je vais l'accompagner, c'est toujours dans le but de l'envoyer. Et j'ai toujours dit, ici, les gens ne nous appartiennent pas. Si les gens veulent partir, ils s'en vont. Si les gens... en espérant que là où ils iront, ils reproduiront ce qu'ils ont vécu. Je n'ai pas de honte à dire, même si après, il était bien écrit dans la parole de Dieu, hein, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Pour devenir une seule chair, c'est, tu ne dois pas forcément reproduire tout ce que tu as vécu chez toi. Hein. J'ai toujours dit à mes filles, surtout, ne reproduisez pas tout. Parce qu'on n'a pas forcément été parfait sur tout. Mais bâtissez quelque chose. Et je le vois aujourd'hui, moi, dans la manière de vivre de mes enfants, ils reproduisent quand même. L'ADN est là, vous comprenez ? Et je pense que Dieu veut que nous soyons capables d'envoyer. Pas de garder pour nous, mais d'envoyer. La doctrine des premiers apôtres était une doctrine de mouvement. Regardez comment... Paul fait dans les écrits, vous lisez le livre des actes, mais c'est extraordinaire. Allez, je vais aller en Asie. Non, t'iras pas là-bas, Macédoine, paf. Il bougeait tout le temps, mais il bougeait pas en fonction de ce que eux voulaient, mais toujours en fonction de ce que l'Esprit de Dieu les amenait à faire. Et je crois que quelque chose doit changer dans notre mentalité. Hier, on a fait ce constat, c'est que Dieu ne parlait pas simplement à Bezalel, il venait pas confirmer, mais il parlait à toutes les églises, qui étaient aux représentants des églises en épi qui étaient présents dans cette journée. Il était en train de parler, et je peux vous dire que c'était extraordinaire, mais c'est comme si les gens recevaient cette parole, ils étaient là, ils étaient, oui, je suis d'accord, mais ils ne bougeaient pas. Ils restaient figés, dans leur fonctionnement. Vous savez pourquoi on reste figé souvent dans notre fonctionnement ? Parce que lorsqu'on reste dans notre mouvement à nous, ça nous sécurise. On est dans notre zone de confort. Mais le mouvement des apôtres, le mouvement apostolique, c'est de bouger là où l'Esprit nous demande de bouger et de faire ce que l'Esprit nous demande de faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et c'était une doctrine d'expansion. Parce que vous savez, quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il ne leur dit pas « Nous sommes à Jérusalem, faites ici une grande église ». J'ai rien contre les grandes églises. Mais il ne leur dit pas ça. D'ailleurs, ils sont déjà 3000, je crois, puis ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent, et le Seigneur va devoir mettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour étaler tout ça dans tout le bassin méditerranéen. C'est vraiment intéressant, d'ailleurs, parce que même là où nous voulons parfois faire grandir les choses, Dieu, lui, il met un coup de pied dans le bas de la tour pour que ça s'étale. J'ai fait ça l'autre fois avec mon petit-fils Léo. Il m'a dit, papy, on va faire une tour. Et il commence à faire une tour en Lego. Et puis la tour, d'ailleurs, pour l'encourager, je tenais, parce que vous savez, plus ça monte, plus c'est déséquilibré. Et c'est un petit coquin celui-là. La tour était haute comme ça. On était fiers. J'essaye de la maintenir haute. Et vous savez ce qu'il fait ? Une fois qu'on a tout construit, il met un coup de pied en bas, petit coquin. Et les Legos se sont répandus dans toute la pièce. C'est extraordinaire, hein, c'est un acte prophétique que fait mon petit-fils. Parce qu'il est en train de me montrer qu'on aura beau vouloir élever les choses et remarquer que la tour était vraiment instable, il fallait que je la tienne. Des fois, Dieu dit « je tiens, je tiens, je tiens ». Puis à un moment donné, il met un petit coup de pied là. Et il dit, parce que je veux étendre le royaume. Je veux amener l'expansion. On va voir ce que c'est que l'expansion. Notre mentalité doit être alignée avec l'apostolos. C'est-à-dire que moi, j'ai envie, en fait, d'avoir plein d'enfants. Bon, on ne peut plus, mais vous comprenez ce que je veux dire. On ne va plus faire des enfants maintenant, c'est un peu tard. Mais pourquoi tu te marres, Pierre-Guy ? Mais j'ai envie d'avoir plein d'enfants en Christ. J'ai envie de les prendre. J'ai envie de les nourrir. J'ai envie de les élever. Et j'ai envie de leur dire, allez maintenant, allez-y. Parce que c'est dans la mentalité du Père, ça. Le Père envoie le Fils envoie les disciples qui eux-mêmes font des disciples et qui eux-mêmes envoient, les envoient. Alors, je suis désolé, c'est un peu ma gourmandise. Moi, j'aime les fraises. Hier, on est allé dans une boulangerie-pâtisserie à Rue Minguem. C'était plus fort que moi. J'ai vu une tarte aux fraises. J'ai acheté la tarte aux fraises. Je voudrais simplement que vous puissiez regarder ces deux images. Regardez la première, l'image de gauche avec la dame blonde, qui n'est pas Maryse. Hein. Regardez ce qu'elle fait, cette dame. Elle a un beau pied. Enfin, un beau socle de fraises. Ça, c'est l'image quand je veux la croissance en hauteur. Vous voyez, l'image de la tour. Alors, c'est très, très beau. Moi, j'ai envie de faire ça dans mon jardin l'année prochaine. Je vais le faire. J'ai dit à Maryse, bon, l'année prochaine, j'ai envie d'avoir plein de pieds de fraises partout. J'aime trop ça. Mais regardez, est-ce que vous pensez à un moment donné que les fraises vont être capables de se reproduire? Non. À terme, les pieds, chaque pied qui est dans chaque pot va finir par vieillir et il finira par ne plus donner de fruits. Regardez à droite, je vous ai pris une petite image du champ de fraises à côté. À droite, à gauche, vous avez la croissance. À droite, vous avez l'expansion. Et dans la mentalité de Dieu, c'est l'expansion. Je m'explique. En fait, l'Éternel a fait ces deux promesses à Abraham. Un, je te donnerai une postérité. Donc il dit, tu auras des fils et des filles. Il promet une postérité. D'ailleurs, après, on va prier pour la fertilité de chacun d'entre nous. Parce que Dieu veut rétablir la fertilité. Parce que la promesse de mon père dans la foi, qui est Abraham, elle est aussi pour moi. J'ai cet héritage en Christ que le Seigneur veut vraiment que je sois un homme fertile. Je ferai de toi une grande nation, dit-il. Et puis il lui dit, je te donnerai d'être source de bénédiction pour les nations. Voyez ? Et il lui dit, tu vas avoir beaucoup de fils, mais au-delà de tout ça, tu vas t'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. La mentalité de Dieu est apostolique, notre mandat est apostolique. Il veut faire de nous des pères et des mères, étendre le royaume de Dieu par toute la terre. Est-ce que vous êtes sûr de ça ? Parce que parfois dans notre mentalité, on pense que Dieu ne veut rien faire de nous. Hein. Or, c'est faux. Ce n'est pas dans notre identité, ce n'est pas dans notre ADN. L'ADN, j'ai le même ADN dans la foi qu'Abraham. Abraham est mon père et il veut faire de moi un père ou une mère, pour les dames, qui va autour de lui essaimer ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Et là, je vous pose cette question, après je ne vous demande pas de répondre forcément. Réfléchissez aujourd'hui ou cette semaine. Quelle est votre mentalité ? Qu'est-ce que vous croyez vraiment que Dieu veut faire de vous ? Parce que je suis convaincu que ce matin, il y a des personnes qui pensent que Dieu ne veut rien faire avec eux. Alors, ce n'est pas qu'elles le disent. Ce n'est pas qu'elles le proclament. Des fois, oui. Moi, ça m'est arrivé. Mais c'est parce qu'elles ne font rien qui prouve que leur mentalité est une mentalité apostolique. Juste ajouter quelque chose. Hier, on sent vraiment que le Saint-Esprit est en train de parler. C'était très fort. Mais je peux vous dire, j'avais une frustration après la réunion. Parce que j'ai compris ce jour-là, de par des discussions que j'ai eues pendant l'heure du midi, qu'il y avait des personnes qui avaient entendu ça, qui avaient entendu ce que Guy est en train de nous dire, qui venaient valider des choses. Et les gens ont dit, il faut grandir, il faut plus de monde dans notre église, il faut plus, il faut plus, il faut plus. Alors je ne nie pas que je ne veux pas avoir du monde, vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas le monde qui fait la réussite d'une église. C'est la qualité des personnes qui s'y trouvent. Est-ce qu'il y a des disciples ? Est-ce qu'aujourd'hui, on va être, imaginons qu'on soit persécuté, combien de personnes resteront encore dans la foi ? C'est ça qui fait la qualité d'une assemblée, d'une église. Quelle est votre mentalité ? Quelle est ma mentalité ? Et je dois vous dire, en toute honnêteté, que je lutte contre la mentalité qui n'est pas celle de Dieu. Je le confessais hier matin à Michel, je dois lutter sans cesse contre ça. Parce que tout est fait pour me faire croire que Dieu ne veut rien faire avec moi et qu'il ne veut pas que je multiplie les choses. Pour être comme le Seigneur, nous devons aimer le mouvement. Alors, si vous êtes apostolique, vous allez aimer bouger. Dieu parle, souvenez-vous, il y a eu un message il y a quelques mois sur la nuée. La nuée s'élève, le peuple se lève. La nuée s'arrête, le peuple s'arrête. Et Dieu, en sortant son peuple d'Égypte, en l'amenant vers la liberté, il l'amène vers le mouvement, son mouvement à lui. C'est le mouvement de Dieu qui est initié dans le désert. Et le problème, c'est que souvent... On a regardé une émission hier soir avec Tim et Maryse sur, ça s'appelle, on s'y retrouve, c'est ça ? C'est la porte ouverte à Mulhouse qui fait ça. C'est le sujet sur la liberté. Et à un moment donné, Jean-Marie Ribet, il a dit, le problème, c'est qu'ils étaient sortis d'Égypte. D'accord, ils étaient hors d'Égypte, mais ils avaient encore l'Égypte en eux. Et donc, du coup, ils n'arrivaient pas à être libres. Or Dieu, quand il nous amène hors d'Égypte, lorsqu'il nous amène dans son royaume, lorsqu'il nous amène dans sa présence, il veut nous amener dans son mouvement. Et le nombre de fois où Dieu parle qu'on dit « Non, je resterai là, Seigneur. Je ne bougerai pas. » Alors on ne le dit pas comme ça. Hein. Je suis d'accord avec vous, on est un peu plus fin que ça. Mais on est comme ça. Ça veut dire, quand Dieu est en train de te dire « Je veux t'envoyer, est-ce que tu es prêt à bouger ?» Il faut aimer l'aventure avec le Seigneur. Et parfois, l'aventure, c'est l'aventure. Il y avait un film là-dessus. L'aventure, c'est l'aventure. Il faut aimer la pluralité. Nous en parlions hier matin. En fait, j'ai réalisé quelque chose. C'est qu'on ne doit pas faire des groupes de maison par affinité. C'est une erreur. Parce que lorsque je vois comment Jésus choisit ses disciples, je me dis, ils étaient totalement différents. Et en réalité, je dois être capable, si je veux bouger avec Dieu, d'accepter d'être à côté de quelqu'un qui est totalement différent de moi. Et même si ça m'ennuie, que tout le monde ne pense pas comme moi. Même si ça m'irrite que tout le monde ne veut pas faire comme moi. C'est dans la pensée de Dieu, l'apostolique, c'est d'accepter que d'être à côté de personnes qui ne sont pas forcément comme moi. Et si je dérange, tant mieux. Parce que quand je te dérange, je t'amène dans tes retranchements. Et ça doit te parler, plutôt que de dire « Ah, oh, celui-là, c'est un drôle de pasteur. » Hein, d'accord ? Même si j'en suis un. Il faut aimer la diversité. Il faut être capable d'être multiracial. Il faut être capable d'accepter que ce ne soient pas les hommes qui gèrent tout. Il faut accepter la présence de la femme. Il faut accepter que la femme puisse prendre sa place dans l'Église. Amen. Totalement. Amen. Vous dire, il insiste sur ça en ce moment. Mais je suis convaincu que Dieu veut rétablir ça actuellement dans l'Église. Il faut être prêt à se battre pour conquérir de nouveaux territoires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire est-ce que je prie chez moi pour mes voisins ? Est-ce que je prie pour que ma maison devienne une maison de prière ? Est-ce que je prie pour que ma maison devienne un petit groupe ? Est-ce que je prie pour que d'autres chrétiens puissent s'installer à côté de chez moi et puis qu'on puisse se réunir ensemble et vivre ce que Dieu est en train de montrer ? Que nous puissions avoir une maison où il va y avoir de la formation, où il va y avoir du discipulat, où il va y avoir des temps de prière, où il va y avoir de la communion fraternelle. Oh, c'est vrai, je n'aurai pas avec moi que des gens qui pensent comme moi. Oh, c'est vrai, les gens peut-être vont, les frères, les sœurs vont peut-être me déranger. Oh, ils n'auront pas la même doctrine que moi. Mais peu importe, ce que Dieu veut, c'est que nous passions du temps ensemble et que notre mission, c'est pas de discuter de notre doctrine. Notre mission, c'est de dire, là, il y a un voisin qui est en réelle difficulté et je vais aller l'aider. C'est ce que j'essaye de faire avec mes voisins. J'essaye de leur parler. Il y a un voisin là, à côté. Hier, avant-hier, je lui ai donné ma salade. Il m'a dit, ah, ton potager a bien grandi. Tiens, voilà de la salade. Ah, ça vous paraît anodin. Mais je l'ai vu dans ses yeux, il a été touché par ça. À chaque fois que vous donnerez un verre d'eau à l'un de ses petits, ça, c'est une œuvre qui est bâtie avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Et puis, je vais vous montrer un peu concrètement c'est quoi répandre l'Évangile. Alors, j'en ai parlé avec mon ami Guy hier, parce que c'est le roi du potager, Guy. Hein. Vous allez chez lui... Vous prenez un cours sur les poireaux, il connaît tout. Il m'a expliqué hier qu'il avait fait du miel de pissenlit à table. Je ne savais même pas que ça existait. Il paraît que ça a le goût du miel, mais c'est... il dit, en fait, tu joues à l'abeille. Voilà. Il faudra qu'il nous explique ça une fois. Regardez, alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu des fraisiers chez vous, mais moi, un jour, je m'étais interrogé parce que je ne m'y connaissais pas. Alors, lorsque nous sommes allés habiter dans cette maison en 2006, où nous habitons aujourd'hui, Nathan voulait un potager. Il n'a jamais mis un pied dans le potager. J'ai fait le potager, je me suis tout tapé. Et puis, ah, c'est vrai, Nat. Et je l'avais appelé même le potager de Nathan. Il portait ton nom, tu te souviens? Et j'avais mis des fraises. Et puis, je m'étais aperçu, en réalité, vous voyez, qu'il y avait, de temps en temps, même souvent, sur les pieds de fraises, il y avait comme une tige qui sortait avec une petite feuille et des petites racines. La petite tige, là, ça s'appelle le stolon. Ça s'appelle un stolon. Et vous savez, si vous voulez reproduire un pied de fraise, il y a deux manières de le faire, c'est d'aller gratter les petites graines sur la fraise, de les laisser sécher, de les semer. Mais il y a un autre moyen qui est beaucoup plus facile, beaucoup, beaucoup plus facile, c'est de prendre le bout de ce... Vous voyez, la petite feuille, les petites racines, vous voulez le reproduire, vous allez le mettre dans un petit pot avec du terreau, avec beaucoup d'eau, un peu de compost, voilà, et vous le laissez à côté pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, vous coupez le stolon. Et puis vous allez mettre votre pied de fraise un peu plus loin. Et l'année suivante, il devient lui-même un pied de fraise qui produit des fraises et un pied de fraise qui va lui-même produire des stolons, et etc., etc., etc. Est-ce que vous comprenez maintenant l'image du champ ? Le champ de fraises, c'est comme ça que font aujourd'hui ceux qui cultivent vos fraises. En fait, ça ne leur coûte rien. Parce qu'ils utilisent une loi naturelle pour s'enrichir. Et Dieu veut qu'on utilise sa loi du royaume pour enrichir notre Père, pour lui rendre gloire et honneur. Voilà. Le problème dans tout ça, c'est que parfois, il y a des pieds de fraises qui ne produisent pas de stolons. C'est ce que me disait Guy hier. Il m'a dit, tu t'es déjà interrogé, Bruno, parfois, il y a des pieds qui ne produisent pas ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas normal. Dès lors qu'un pied de fraise devient pied de fraise, il doit produire un stolon. C'est que parfois, il y a de la stérilité dans nos vies. Et parfois, nous sommes incapables parce que il y a quelque chose en nous qui nous a bloqué. Et lorsque Guy a dit ça hier à table, hier midi, j'étais touché dans mon cœur. Parce que je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas qu'il y ait des pieds de fraise qui ne produisent pas de stolons. Et je veux prier pour la fertilité de cette église. Et je veux prier pour que moi, je devienne fertile, Seigneur. Pour qu'il y ait plein de ma maison, qu'il y ait plein de maisons qui deviennent des maisons de prière. J'ai envie de ça. Parce que c'est ça, l'apostolique. Parce que Dieu m'a mis un jour dans son champ. Pas que je devienne un pied de fraise qui monte en hauteur comme ça, qui s'élève, mais un pied de fraise qui donne de lui, comme le cordon ombilical, c'est une belle image, qui va nourrir quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre devient le père ou la mère de quelqu'un d'autre. Alors les petits groupes, notre rôle, voilà ce que j'aimerais, voilà, je vous parle, en toute honnêteté et toute transparence. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait vraiment un réseau apostolique à Betzalel. On ne va pas créer un nom, on a déjà un nom. On va s'appeler Église Pied de Fraise. Ce serait original au moins. Mais je voudrais vraiment rencontrer, servir, restaurer, équiper et envoyer ceux que Dieu nous confie. Et dans, vous vous souvenez de la parole prophétique d'Hervé Guillois que nous avons écoutée il y a environ un mois, c'est ça ? La parole prophétique disait cela. Elle disait, Bruno et Maryse, il est temps de former des responsables qui deviendront responsables dans les maisons. C'est le rôle des petits groupes, ça. nos valeurs. Parce que je veux vraiment transmettre des valeurs. Ah, je ne dis pas, tu vois, John, tu m'as confié des valeurs. Tu ne t'en rends pas compte, mais à travers mes enseignements, il y a des valeurs qui sont venues. Et pourtant, on n'a passé que quelques mois ensemble. Mais vous savez, quand vous prenez du temps avec quelqu'un et que vous lui partagez son cœur et que vous vivez vraiment une vraie relation, pas oh, « je vais mettre des filtres parce que qu'est-ce qu'il va penser de moi ou elle ?» Enfin, vous voyez, parce qu'entre nous, on n'arrête pas de se mettre des filtres, de mettre des protections entre nous. Mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va faire ceci? Qu'est-ce qu'il va faire cela? Est-ce qu'il va me percevoir comme quelqu'un, comme ci, comme ça? Arrêtez de vous poser des questions, vivez vos relations et partagez vos valeurs. Et je crois qu'ici, Dieu a déposé dans cette communauté des personnes de valeur. À chaque fois qu'un prophète parle sur cette communauté, il dit « il y a de la valeur ici ». Mais la valeur, ce n'est pas un homme, ce n'est pas l'Église. C'est vous qui êtes les valeurs de cette Église. C'est vous que Dieu a choisi pour transmettre des choses aux autres. Les valeurs sont des choses immatérielles auxquelles nous tenons. Moi, il y a des valeurs auxquelles je tiens. Je vous assure. Et comme par hasard, à chaque fois, on m'attaque sur ces valeurs-là. Pourquoi ? Parce que je sais que le diable est un lion rugissant qui va chercher, pas à dévorer Bruno, parce que bon, la viande commence à vieillir, vous voyez, il va avoir de la carne, le pauvre, il va devoir s'aiguiser les dents. Mais non, il cherche à manger mes valeurs. Il cherche à détruire tes valeurs. Il cherche à prendre ce que tu as reçu de Dieu. Il cherche à te voler, à dévorer ce que Dieu a mis dans ton cœur. Oui, c'est exactement. Et pourquoi il cherche à voler tes valeurs? Parce que tes valeurs déterminent tes actions et tes priorités. Aujourd'hui, mes valeurs, c'est quoi? C'est de prendre soin d'un troupeau. C'est de transmettre mon amour que j'ai pour les gens. C'est de prêcher l'évangile. C'est de vivre la communion fraternelle. C'est de bâtir quelque chose avec vous, mes frères et mes sœurs. Ça, c'est mes valeurs. Et pourquoi le diable vient-il toucher à ça? Parce qu'il sait que ça, ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'il sait que quand j'ai des valeurs qui sont là, personne, ça va déterminer des actions, mais des actions puissantes de foi. Vous imaginez si on est en train de tous se dire aujourd'hui, je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis... un pied de fraise avec des stolons, je ne suis plus ce pied de fraise stérile, vous imaginez, il va commencer à trembler. Parce que partout où les fraises, les pieds de fraise vont s'étendre, il a moins de place pour y mettre les pieds dans le champ de Dieu. Partout où Dieu bouge dans une maison, nous voulons y aller et pour aider, accompagner. Je vous le dis. Si un jour vous avez à cœur d'ouvrir votre maison, ben nous vous accompagnerons. Je ne dis pas nous vous suivrons, parce qu'il est hors de question ici, ça c'est une valeur que je veux mettre et déclarer, il est hors de question de suivre les gens. Oh, tu as besoin qu'on te suive. En gros, tu as besoin qu'on te flique. C'est pas vrai? Hier, on parlait à table. Je crois qu'on parlait de l'éducation. On parlait, vous savez, de la problématique de la jeunesse aujourd'hui face aux relations sexuelles avant le mariage. Et avec nos enfants, on leur a toujours dit, voilà, la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Après, faites ce que vous voulez. Vous avez notre confiance. Eh bien, je peux vous dire que les valeurs l'ont été transmises à nos enfants. Oui, on n'est pas là pour suivre les gens. On est là pour les accompagner. On est là pour les élever. On est là pour leur donner le meilleur. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Arrêtons de dire « on va suivre ». Quel mot, quel verbe qui me donne envie de vomir. Parce que je sais que forcément, quand j'enfante, je sais que mes enfants ne seront pas comme moi. Ils auront leur personnalité. Ils auront leur appel, ils auront leur ministère, ils auront leur don, ils auront tout ce que Dieu leur a donné. Mais comment moi, qui suis un homme imparfait, puis-je dire « je vais te suivre », en gros, je vais te montrer comment il faut faire. Bien sûr, on va donner les outils, on va accompagner, on va donner notre amour, on va former, on va penser, on va expliquer ce que nous pensons être bon pour eux. Mais après, ils feront ce qu'ils voulont. On leur demandera simplement de nous dire, dites-nous de temps en temps comment ça marche, quoi. Faites-nous un petit rapport, c'est la moindre des choses, non ? Vous croyez pas ? Moi, nos enfants, de temps en temps, ils prennent des nouvelles quand même, hein. Comment ça va, papa, maman ? Nous, il y a ça. C'est moindre des choses. Nous décentralisons le discipulat vers les maisons. On en parlait hier. Le problème, c'est que quand vous avez une grosse église, je ne sais pas si c'est le bon mot, le bon adjectif, mais quand vous avez une grosse... La plupart du temps, on pense que parce que c'est toujours comme ça, le prédicateur, il pense que c'est le meilleur du monde, hein. Moi, avec moi, ils vont comprendre. Hein. Je me rends compte en réalité que quand je donne un message, surtout que les trois quarts du temps, je ne prépare pas tout par écrit, donc je me laisse un peu aspirer par le Seigneur, du coup, je me rends compte que ce n'est pas toujours perçu comme j'ai voulu le dire. Hein. Ah oui, je peux vous le dire. Et je suis sûr d'ailleurs que vous n'avez peut-être pas tout compris ce que j'ai voulu dire ce matin. Mais quand je suis dans... Donc on bâtit actuellement le fonctionnement des églises, c'est ça. Je ne jette pas de... Comprenez, je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Mais je dis, on pense qu'on va prêcher, donc les gens vont faire ce qu'on leur a demandé. C'est faux. Alors, par expérience, je viens de me rendre compte que c'est dans la maison, dans les choses de chaque jour. Moi, je pouvais mettre, à la limite, une consigne sur le frigo, faites pas ceci, faites pas cela, faites pas cela, faites pas cela. Non, il fallait que je sois à côté de mes enfants pour leur dire, tu sais, tu fais encore ça, maman a dit de pas mettre tes chaussures quand tu montes là-haut. Point. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on a besoin de proximité, de vivre la proximité pour vivre le discipulat. Et je ne peux pas faire un disciple ici. Je suis désolé de vous le dire. Par contre, quand je vais dans les maisons, quand je commence à discuter, la semaine prochaine, il y a un petit groupe, on va parler, de l'apostolique. Et puis, quelqu'un va dire, moi j'ai l'impression que je suis stérile. Alors, les responsables de la maison diront, écoute, c'est le moment ou jamais de prier, parce que ce n'est pas du tout la promesse que Dieu a faite. Donc, je vais prier pour toi. Et si tu veux, on va t'aider à te rendre fertile. De quoi as-tu besoin ? J'ai besoin, par exemple, de bien comprendre le message de la croix. Alors, on va t'expliquer ce qu'est la croix. On va t'expliquer ce qu'est que la justification. On va t'expliquer ce que c'est que... Voilà. Mais ça, c'est dans les maisons. Je suis désolé de vous le dire. Et si ça ne rentre pas dans notre mentalité, si ça ne devient pas ma valeur, je continuerai à croire qu'il n'y a qu'ici que je peux bâtir les choses. Je suis désolé, mais même si je vous fais un peu grasser des dents, c'est une réalité. D'ailleurs, Jésus, c'est exactement comme ça qu'il a fait. Il n'a pas dit, je vais aller à Jérusalem, je vais faire une grande église, je vais prêcher. Bien sûr qu'il prêchait dans les foules. Mais regardez, derrière, les disciples, ils entendaient l'enseignement de Jésus. Tu peux nous expliquer, là, à la parabole du semeur, il y a un truc qu'on n'a pas compris, là. Et là, Jésus est rentré un peu plus dans le détail. Il y avait quelque chose de proclamé à une foule, et puis après, ceux qui étaient intéressés allaient auprès de lui, et Jésus allait plus en profondeur. C'est exactement ça qui est sur mon cœur. Et pas simplement pour l'église de Betzalel, pour l'église en général. Un coaching apostolique extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je crois que nous avons besoin d'aide de personnes qui nous amènent plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Paul était un père pour Timothée. Et Timothée lui faisait des rapports. Et je vois, j'ai lisé encore hier soir, Paul qui donne des conseils, insiste en toute occasion, et lui dit, fais attention à ton estomac, Timothée. Pourtant, il l'envoie avec toute sa confiance, mais il jouait toujours le rôle de père. Et parfois, je m'imagine Timothée. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Où il dit, je t'invite à ranimer le don que tu as reçu par imposition des mains. Parce que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous savez, Timothée, il était adulte. Il était capable d'aller dans une ville, dans une île, et de nommer des anciens. Paul dit, je vous envoie Tite et Timothée. Il était capable de faire des choses importantes. Discerner qui pouvait être ancien, c'était une lourde responsabilité dans une église. Vous êtes d'accord avec moi ? Et pourtant, il reste attaché à son père. C'est-à-dire que le stolon était coupé, mais le petit pied de fraise regardait toujours le grand pied de fraise. Et je crois, les gens qui vous disent « je n'ai pas besoin de cela », vous vous leurrez. Je vous le dis, en toute honnêteté, on se leurre quand on dit qu'on n'a pas besoin des autres. Et ce serait se leurrer et se tromper si ici, on se disait « nous n'avons pas besoin d'autres personnes qu'à Betsalel ». Parce que malheureusement ici, nous n'avons pas tous les ministères. Et Dieu merci, c'est tant mieux. Au moins, on ne sera pas comme l'église de Laodicée qui dit « je n'ai besoin de rien ». Hein, d'accord ? Voilà. Nous déclarons donc passer de la croissance à la multiplication. Elle est basée sur le discipulat. Et je voudrais juste vous dire ce qu'un homme de Dieu a écrit un jour. Les grandes choses de Dieu sont hors de notre contrôle. Moi, je ne suis pas capable de contrôler les choses de Dieu. Mais pas de notre foi. Dès lors que nous nous laissons conduire par son esprit. Et l'esprit est en train de parler à l'Église aujourd'hui. Pas simplement à nous. Je le vois hier, Dieu a parlé. La question est, qu'allons-nous faire de ce que Dieu a dit ? Je comprends pourquoi dans l'Église, dans les lettres aux Églises de l'Apocalypse, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Je ne sais pas ce que vous allez retenir de ce message, mais il y a une chose que vous devez retenir. Nous sommes apostoliques. Nous sommes envoyés. Nous sommes envoyés par le Fils parmi les nations. Il n'y a pas de honte de s'appeler apostolique. Dieu est apostolique, le Fils est apostolique et l'Église est apostolique. Il n'y a pas de honte. Et je revendique ce mot. Je revendique parce que c'est dans le cœur, c'est dans l'ADN, c'est dans la pensée du Père. Et il y a une deuxième chose que vous devez retenir. Si vous êtes stérile, Dieu veut vous rendre fertile. Il veut que vous vous reproduisiez. Il veut qu'il y ait des stolons, des cordons ombilicaux qui sortent pour que vous puissiez devenir des pères et des mères pour la gloire de Dieu. J'espère ne pas avoir été trop long. J'étais long, hein ? Voilà. On va prier pour la fertilité maintenant. Je prie, Père. Je prie que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Je prie parce que tu as envoyé ton Fils. Tu as envoyé le Saint-Esprit. Tu as envoyé tes disciples. Tes disciples ont envoyé des hommes. Et ça se passe comme ça depuis toujours. Et je voudrais répondre à cet appel, Seigneur, ce matin. À l'appel qui vient de ton cœur. Tu le dis à Isaïe dans le temple. Tu dis, qui enverrai-je ? Et Isaïe répond, me voici, Seigneur. Shelia, envoie-moi, Seigneur. Apostolos, envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi là où tu veux. Parce que je veux porter du fruit. Parce que je veux multiplier. Parce que je veux multiplier ce que tu m'as donné. parce que je ne veux pas garder des choses pour moi. Je ne veux pas être comme cet homme qui a caché le talent, mais je veux distribuer, faire fructifier ce que tu m'as donné. Et Père, je prie maintenant. Je prie pour toutes celles et tous ceux qui sont stériles dans leur vie, qui ne voient pas d'autres pieds de fraise. En tout cas, pour celles et ceux qui sont convaincus qu'ils ne pourront pas reproduire les choses. Alors je te prie pour cela. Et je déclare maintenant la fertilité. Parce que c'est dans mon ADN. Parce que c'est la promesse que tu fais à Abraham. Tu seras le père de beaucoup. Et tu t'étendras jusqu'aux extrémités de la terre. Aussi nombreux que sont les étoiles du ciel, aussi nombreux que sera le sable, les grains de sable, tu t'étendras. Et je déclare maintenant que je suis fertile en Dieu. Je déclare maintenant que tu peux reproduire avec moi, Seigneur. Je déclare que je veux étendre le royaume, pas simplement m'élever, mais je veux aussi étendre ta parole. Je veux étendre ce que tu m'as donné. Je veux multiplier ce que tu m'as donné dans ce pays, dans ce lieu de ce monde. Je le demande au nom de Jésus. Je proclame maintenant la fertilité au nom de Jésus. Amen.